Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bonjour à vous et bienvenue dans cette chronique spirituelle. Je suis le frère Paul Adrien d'Ardemar, prêtre religieux catholique. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des calendriers religieux avant de nous tourner vers l'évangile du jour. Nous commençons avec ce que l'on appelle le calendrier julien. Le calendrier julien n'a pas une origine religieuse particulière, même si vous allez voir, il va vite en avoir une. Le calendrier julien, Julien de Jules César, a été créé en 46 avant Jésus-Christ par, précisément, Jules César, qui remplace alors le calendrier romain de l'époque jugé trop imprécis. Il a été élaboré avec l'aide de l'astronome égyptien Sosichen. Il est basé sur une approximation du cycle solaire avec une année moyenne de 365,25 jours. C'est-à-dire qu'il y a 365 jours plus les années bissextiles. Sauf que ça induit une erreur d'environ 11 minutes par an qui s'accumule. C'est-à-dire que tous les 400 ans, il y a 3 jours en trop qui apparaissent. Et ben, au fil des siècles, ça devient compliqué. Alors quel est le rapport avec ça et leur religion? Ben, vous allez voir tout de suite après. En 1582, le pape Grégoire XIII trouve qu'il y a trop de décalage. Il écrit une bulle, il fulmine une bulle papale, c'est le terme exact, inter gravissima, pour réformer le calendrier julien. Et ça deviendra le calendrier grégorien. C'est-à-dire que l'on garde 365 jours par an, plus les années bissextiles, sauf quand l'année est divisible par 100. Par exemple, 1900, bah, c'est pas une année bissextile. 2000 non plus. Mais si jamais c'est divisible par 400, là, ça devient à nouveau une année bissextile. Ce qui veut donc dire que l'année 2000, qui normalement était bissextile, puis qui ne devait plus être bissextile, redevient bissextile. Ce qui fait que l'on arrive à une année de 365,2425 jours, ce qui est très très proche de l'année solaire réelle. Pour le faire, pour adopter ce calendrier, il a fallu supprimer 10 jours. C'est-à-dire qu'en 1584, on est passé du 4 octobre au 15 octobre directement. Et ça, les orthodoxes, ça leur a pas plu. Les orthodoxes sont restés au calendrier julien. Ce qui fait qu'une des marqueurs entre le catholicisme et même le protestantisme d'un côté, le christianisme occidental, enfin l'ouest de l'Europe, et la différence entre l'orthodoxie, ben c'est précisément aussi, c'est devenu une affaire de calendrier. Calendrier julien dans le monde orthodoxe contre calendrier grégorien dans le monde chrétien ouest de l'Europe. Et pourquoi est-ce que je vous en parle ? Je vous en parle parce que c'est bientôt le carême et que après le carême, c'est Pâques. Et cette année, et exceptionnellement cette année, Pâques pour les orthodoxes va coïncider avec Pâques pour les catholiques. Ah ! Et ça, dans l'imaginaire chrétien, ça veut dire des choses. Parce que si vous connaissez l'histoire des religions, vous savez que ça fait référence à une très grave controverse qu'il y avait eu lors de l'Antiquité, ce qu'on appelle la controverse pascale, sous le pape Victor Ier, fin du IIe siècle, quand il y avait déjà une querelle dans la date de la Pâque et que ça avait failli amener jusqu'à un schisme. Il avait fallu que des pères de l'Église déclarent que on n'allait pas séparer l'Église en deux à cause d'une date différente dans la date de Pâques. Donc aujourd'hui, quand il y a des dates de Pâques différentes entre les orthodoxes d'un côté, les catholiques de l'autre, c'est aux yeux de tous les chrétiens la preuve que l'Église va mal et qu'elle est séparée. D'où les appels répétés du pape cette année et particulièrement cette année, alors que la date de la Pâque coïncide entre les catholiques d'un côté et les orthodoxes de l'autre, d'essayer de voir là comme un nouveau départ et d'essayer de maintenant résoudre cette controverse qui dure depuis 5 ou 6 siècles. Et ça va bien. Jésus a dit « Soyez un entre vous, comme je suis un avec le Père. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Nous passons maintenant à l'évangile du jour. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi de mesure pour vous. C'est certainement un des évangiles les plus beaux. Pardonnez et vous serez pardonnés, donnez et l'on vous donnera une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, car la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. C'est extraordinaire. On sent bien l'élan de la gratuité. Et la gratuité est une preuve de l'œuvre de Dieu. Un des évangiles les plus beaux, mais aussi un des évangiles les plus dangereux. Parce que si vous prêtez sans jamais rien espérer recevoir en retour, ça va être compliqué de faire tourner une entreprise. Et si jamais vous pardonnez sans cesse à vos ennemis, ça va être compliqué aussi de temps en temps de dire que les bêtises, ça va bien. Et pourtant, de temps en temps, il faut bien le dire. C'est peut-être un lieu commun, mais je le redis quand même. Jésus a dit, si on vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite. Mais quand lui-même s'est fait frapper sur la joue gauche, il n'a pas tendu la joue droite, il a dit « qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir une telle claque ?» Donc, ne soyons pas plus papistes que le pape et ne soyons pas plus chrétiens que Jésus lui-même. Je vais donner encore un autre exemple pour montrer parfois cette sorte de naïveté dont les chrétiens font preuve et à vouloir être trop bon au mauvais moment, on finit par devenir cruel au mauvais moment. Quand on est trop bon, parfois pour rétablir la barre, on est obligé de devenir cruel. Donc, apprenons à bien le lire. L'exemple auquel je pense était un couple qui m'avait demandé de les marier. Et comme évangile, ils avaient choisi cet évangile-là. L'amour des ennemis. Aimer ceux qui vous maudissent. Si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Ils l'avaient choisi pour leur messe de mariage. Et je les avais regardés avec des grands yeux en disant « Mais ça va pas ? Ça, on peut pas faire ça ?» Ils me disaient « Bah oui, mais l'amour des ennemis, c'est bien le sommet de l'amour. » Je dis « Bah non, le sommet de l'amour, c'est pas l'amour des ennemis. Le sommet de l'amour, c'est l'amour des amis. Ou l'amour conjugal, ou tout ce que vous voulez, mais certainement pas l'amour des ennemis. Je veux bien que dans l'amour des ennemis brille une certaine forme de gratuité, de désintéressement et de compassion et de miséricorde qui est la perle rare de l'amour des ennemis. Mais l'amour des ennemis, on n'aime pas ses ennemis comme on aime ses amis. Et le sommet de l'amour, c'est l'amour des amis, point à la ligne. » Et je leur avais dit, mais moi je vais lire cet évangile en messe de mariage. Mais en face de moi, j'ai des femmes battues. En face de moi, j'ai des couples dont le conjoint, soit le mari, soit la femme, fait des méchancetés sans nom à l'autre. Et si jamais je sors un évangile comme ça à mauvais escient, mais ça va donner quoi ? Prenez-moi un autre évangile. Donc ils avaient pris un autre évangile et ils m'ont dit « Bah oui, on n'avait pas pensé à tout ça. » Je dis « Bah oui, mais quand même, c'est un évangile, c'est de la dynamite. La dynamite, ça sert à construire les ponts, ça sert à construire les tunnels, ça sert à envoyer des fusées sur la ligne, mais la dynamite, ça sert aussi à faire la guerre. Donc évitons de mal le prendre. » De manière simple, on va le dire comme ça, vous devez distinguer entre les péchés véniels et les péchés graves, voire les péchés mortels. Les péchés véniels, comme on dit, ce sont les péchés que l'on peut pardonner. Venia en latin, le pardon. Si vous voulez, dans l'évangile, c'est la paille et la poutre. Parfois, il y a des pailles et parfois, il y a des poutres. Ou alors, c'est dans l'évangile selon saint Jean, il y a des péchés que l'on peut pardonner. Non, d'ailleurs, pardon, c'est pas dans l'évangile selon saint Jean, c'est dans la première lettre de saint Jean, au chapitre 5 de mémoire. Il y a des péchés que l'on peut pardonner, péchés véniels, et il y a des péchés qui mènent à la mort. Péchés graves. Bon. Eh ben, dans la vie courante, de manière propre, claire, nette et évidente, les péchés véniels, vous pouvez, vous devez prendre cet évangile au ras des pâquerettes, au sens littéral. Par exemple, quand dans une famille, il y a le mari qui arrive systématiquement en retard. Ou quand, moi je sais pas, par exemple, la femme ne peut pas s'empêcher de commencer ses journées en se plaignant. Bon, c'est pas exceptionnel, c'est un peu fatigant. Mais écoutez, enfin voilà quoi, on balaye devant sa porte avant de balayer devant la porte des autres. La paille et la poutre. Péché véniel, eh ben si jamais votre mari arrive tout le temps en retard, vous lui faites une réflexion de temps en temps, et puis après, ben, vous l'aimez, et vous lui faites du bien, et vous lui pardonnez, et vous lui en tenez par rigueur, parce que sinon c'est invivable. De la même manière, si jamais votre femme ne peut pas s'empêcher de commencer ses journées en se plaignant, ben, vous lui faites une ou deux phrases de temps en temps, voilà, et puis quand on a vu que la bataille était perdue, eh ben on aime ses ennemis, on fait du bien à ceux qui nous empêchent de commencer correctement notre journée, etc., parce que la vie est ainsi faite. Et ça, c'est aussi l'amour des ennemis, mais l'amour des ennemis, si vous voulez, au rat et pâquerette dans la vie quotidienne. Après, il y a les ennemis quand ils vous font des vraies crasses. Les ennemis, quand ils vous font des vraies crasses, ben, il faut d'abord faire œuvre de justice. On se protège, on s'éloigne, on met des bornes, on commence par dire que c'est pas possible. Et quand on s'est bien protégé, quand on a porté plainte, il fallait porter plainte. Quand on a défendu le droit et quand on l'a défendu de la plus belle manière que l'on pouvait, alors, et alors seulement, on applique cet évangile. Et les choses sont bien faites. C'est-à-dire que la défense de la justice doit vous amener ensuite jusqu'à pouvoir être miséricordieux. Et là, maintenant, je vous dis, une fois que vous êtes bien opposé au mal, aimez vos ennemis. Et maintenant que vous avez porté plainte à la police, faites du bien à ceux qui vous haïssent. La charité chrétienne ne se fait jamais au détriment de la justice. La chose que rajoute la charité, et c'est pour ça qu'elle est un devoir, c'est qu'elle est la cerise sur le gâteau de la justice. Eh bien, nous voici parvenus à la fin de cette chronique spirituelle. C'est avec une certaine forme de tristesse que je vous quitte et que je vous souhaite un bon dimanche, en espérant vous revoir bientôt la semaine prochaine.
Retrouvez le frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.